Donc, on va passer à la seconde communication de la matinée, qui est celle de Robert Toombs. Je rappelais tout à l'heure que Robert Toombs, qui est professeur à l'université de Cambridge, était l'un des coordonnateurs, un des co-directeurs du numéro de la revue en question qui a servi de d'assise à cette réunion, et avec Fabrice, et on est très heureux qu'il ait accepté de répondre à notre invitation. Pour vous présenter en 30 minutes un panorama de la politique étrangère britannique, qu'il a appelé la politique britannique d'un après-guerre à l'autre, Robert Toombs a eu la gentillesse de nous faire parvenir des éléments de bibliographie qu'on va distribuer. Il n'y en aura sans doute pas pour tout le monde, donc on va les faire passer en paquets différents, et je vous invite à essayer de vous les partager, et je vous laisse la parole en vous remerciant.
Je suis venu dans cet amphithéâtre quand j'étais étudiant, et j'étais toujours, et je suis aujourd'hui aussi, très impressionné par l'attention que vous prêtez à chaque mot que dit le conférencier, ce qui est assez impressionnant pour moi. Je vois que vous avez des laptops, mais je vais vous dire que vous n'êtes pas obligé de prêter une attention si intense, parce que si vous lisez les livres dont je vais vous parler, vous n'aurez pas besoin de moi. Et donc vous aurez bientôt ce liste. On m'a demandé de parler de la bibliographie, et c'est ça que je vais plutôt faire, avec dans les interstices un résumé des événements. Je vais parler de 4 livres, ou peut-être de 3, ça dépend du temps, et qui me semble donne du nouveau à ce sujet. Et donc, vous les avez. Donc, pour ceux qui n'ont pas ce liste, il y en a 4. Vous aurez la liste tout à l'heure. Il y a un livre de Paul Schroeder, qui est un Américain, Schroeder, « The Transformation of European Politics, 1763 à 1848 », de Jonathan Parry, « The Politics of Patriotism, English Liberalism, National Identity and Europe », 1830 à 86, Frank Trentman, Free Trade Nation, Commerce, Consumption and Civil Society in Modern Britain, and Margaret Macmillan, The Peacemakers, The Paris Conference of 1919 and Its Attempt to End War. Alors là, d'un après-guerre à l'autre, les deux après-guerres sont celui de l'après-guerre de 1815 et jusqu'à l'après-guerre de 1918. C'est la première fois de l'histoire qu'un pays libre, ou au moins un pays qui a un gouvernement représentatif, est l'état dominant de la planète. Sa politique étrangère fait partie d'une véritable discussion publique, c'est-à-dire la politique étrangère fait partie de la politique domestique. Même à l'époque du Parlement pré-réforme, l'époque de Castlereagh, à la fin de la guerre de Napoléon, Castlereagh sait que ce qu'il négocie au Congrès de Vienne doit être défendu dans la Chambre des communes. Donc la politique étrangère fait partie de la politique domestique. L'histoire diplomatique classique, vous m'entendez pas trop près du micro, ça va? L'histoire diplomatique classique a souvent été critiquée. C'est, a dit le grand ancêtre A.J.P. Taylor, ce n'est que ce qu'un commis a créé un autre commis. Donc ce n'est pas très important. Mais les ouvrages dont je vais vous parler se démarquent de cette tradition classique, en faisant rentrer la politique internationale dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la politique plus générale, donc en intégrant l'histoire diplomatique dans l'histoire générale. Ce n'est pas nouveau, vous le dites, c'est vrai. James Joel, par exemple, feu James Joel a parlé des « unspoken assumptions » qu'il faut comprendre si on veut comprendre la politique étrangère, c'est-à-dire les idées tacites de ceux qui font la politique. dans un ouvrage classique des années 60, Gallagher and Robinson, l'Afrique et les Victoriens, on parlait de « the official mind of imperialism », la mentalité officielle de l'impérialisme. Mais les deux avaient l'idée, je crois, qu'il fallait étudier une sorte de culture hermétique de ceux qui font la politique et qui est différent implicitement des idées de la société et de la culture générale. Ce n'est plus le cas des livres dont je vais vous parler. Alors, c'est certainement le cas qu'on fait souvent la politique étrangère en secret, mais ceux qui font la politique, même secrètement, font partie de la société, partagent la culture générale et aussi sont obligés, tôt ou tard, de rendre compte de leurs actions devant le public. Donc, je vais vous parler de ces quatre livres et aussi essayer de, comme j'ai dit, de résumer les grandes lignes de la politique du siècle. Que vous connaissez probablement déjà. J'ai demandé à un ami ce qu'il faudrait vous dire, ce que vous alliez connaître. Elle m'a dit, mais ils étudient ce sujet depuis le mois de juillet déjà, donc ils vont tout savoir. Mais donc si tout ce que je dis vous savez déjà, au moins vous serez rassurés. Donc je commence avec Paul Schroeder, qui est le grand historien du premier après-guerre, qui, selon lui, témoigne d'une transformation de la politique, des idées politiques en toute l'Europe, the transformation de la politique européenne, depuis le milieu du XVIIIe siècle, qui est, selon lui, un changement de mentalité qui touche les élites de toutes les grandes puissances. Napoléon, selon lui, a risqué de tout détruire, de détruire la civilisation européenne en poussant jusqu'au bout les idées et les pratiques du XVIIIe siècle sur les relations internationales, c'est-à-dire l'équilibre de pouvoir, selon Schroeder, n'est pas un moyen de garder l'équilibre, c'est une excuse pour faire la guerre. Si un pays gagne, il faut que les autres gagnent aussi, donc le 18e siècle est un siècle de guerre presque perpétuelle. Donc Napoléon prend jusqu'au bout cette logique. Et finalement, les autres pays se rendent compte qu'on ne peut pas négocier avec Napoléon, il faut simplement la détruire. Sinon, la civilisation européenne risque d'être saccagée. Et donc l'Angleterre prend place dans ce changement de politique. Et les grands noms, les instruments principaux de ce changement en Angleterre sont le Premier ministre William Pitt, qui meurt en 1805, et puis le ministre des Affaires étrangères, Lord Castlereagh. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. Lord Castlereagh, qui dirige la politique diplomatique britannique à la fin de la guerre de Napoléon. Donc, Castlereagh sait qu'il faut quitter ce qui est la politique traditionnelle de l'Angleterre, qui est une politique, comme celui des autres pouvoirs, de l'agrandissement, de l'agrandissement surtout colonial. Il faut faire, comme dit Castlereagh, il ne faut plus amasser du butin, il faut amener le monde à des habitudes de paix. Donc, selon Napoléon, qui ne comprend pas ce que fait Castlereagh, l'imbécile, dit Napoléon, et il avait toute l'Europe à ses pieds, il a fait la paix comme s'il avait été vaincu. Donc, l'idée de Castlereagh, c'est de faire la paix, et on ne peut faire la paix qu'en s'engageant dans la politique européenne. On ne peut plus se détacher en pensant qu'on prend le butin colonial qui est suffisant, soit pour négocier, soit pour agrandir sa propre puissance navale et commerciale, il faut rentrer dans le jeu européen. C'est ce que fait Castlereagh au Congrès de Vienne, et il veut créer un nouveau système politique basé sur le véritable équilibre la conciliation, les congrès, la discussion entre les gouvernements, la garantie de l'existence de tous les pays. Ce qui peut sembler réactionnaire, il est beaucoup attaqué comme réactionnaire, mais en fait son grand but c'est de préserver ce qui reste de l'Europe après une vingtaine d'années de guerre. Or, cette politique de stabilisation européenne continue, bien que moins conciliateur et plus démagogique sous son successeur George Canning, car Castlereagh se suicide en 1822, et puis surtout sous Palmerston, qui domine le milieu du siècle, domestiquement et aussi sur le plan international, mais qui a la même idée, dans un sens que Castlereagh, que les intérêts de l'Angleterre ne peuvent pas être défendus qu'en faisant partie de la politique européenne. La France reste pour les Anglais, pour Palmerston, le grand danger. Et donc, c'est à la France qu'il faut s'approcher. C'est ça l'idée de Palmerston. Il faut s'approcher le plus au pays qui est le plus dangereux. C'est peut-être la politique que nous avons suivie depuis, même peut-être maintenant avec les États-Unis, il me semble, de temps en temps. Mais pour les Tories et même pour les Whigs, les libéraux, il ne faut pas traiter la France en ennemi, même si on se méfie toujours des intentions de la France. Il faut la traiter en partenaire. L'histoire continue dans le livre de Parry, dont je vais parler un peu plus longuement, parce qu'il s'agit là de non pas seulement de l'histoire de l'Europe, ou non pas de l'histoire de l'Europe en entier, mais de l'histoire de l'Angleterre et de la politique anglaise, domestique et internationale. Bien plus que Schröder, et donc Parry l'a critiqué pour ne pas avoir prêté suffisamment d'attention, selon Parry, à la dimension interne de la politique étrangère. Alors, Parry place la politique étrangère dans le contexte de la politique interne. Bien qu'il, comme Schröder, il analyse cette politique comme une histoire des idées. Les idées, surtout, du libéralisme patriotique, qui sont hégémoniques, si on veut, dans la plupart du XIXe siècle. Parry ne voit pas du tout les idées comme des prétextes pour des intérêts. Malgré l'axiome de Palmerston bien connu que l'Angleterre n'a plus ni d'amis ni d'ennemis éternels, mais il n'a que des intérêts éternels, il ne faut pas voir ces intérêts comme des intérêts purement matériels. Pour Parry, la question de la politique étrangère est de savoir je le cite en anglais, « the purposes and values that Britain should assert ». Les objectifs et les valeurs que l'Angleterre devrait soutenir. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public politique, le grand public. Et ces valeurs, ces buts sont la liberté politique en Europe, la liberté commerciale, l'anti-esclavagisme, qui est un énorme sujet, et est un sujet d'un très grand intérêt public. C'est, je suppose, le premier grand mouvement de pression publique dans notre histoire. Le progrès, car on considère que tout être humain est foncièrement semblable, les mêmes besoins, les mêmes désirs. Et ce que tout le monde veut ou voudrait, s'il pouvait, c'est d'avoir ce qu'ont les Anglais, bien sûr. La liberté, la prospérité, la chrétienté. Car la chrétienté, au moins la liberté religieuse, est considérée comme un des piliers de la civilisation et de la liberté, bien sûr. Parry souligne l'importance politique des aspirations humanitaires. Il ne faut pas, dit-il, sous-estimer l'importance de cette impulsion missionnaire. Ce ne sont que des mots, dit-il, même si ce sont quelquefois des mots hypocrites. mais qui ont une vraie force politique. Et poursuivre une politique morale, c'est aussi une façon de justifier le gouvernement du Parti libéral et de son élément Whig. Vous connaissez les Whigs, c'est l'élément traditionnel du Parti libéral, composé surtout des grandes familles aristocratiques, les Grey, les Russell, les Holland, qui sont, je suppose, plus ou moins l'équivalent des Breuil, des Tocqueville dans l'histoire de France. Alors, ces aristocrates libéraux sont très puissants dans le parti libéral, dans le parti Whig, et on les laisse faire. Il n'y a pas de grande contestation démocratique. On les laisse faire à condition qu'ils font ce qui semble juste, ce qui semble accordé avec l'intérêt national et la moralité de l'époque. Le grand personnage de cette politique libérale est bien sûr Palmerston, Lord Palmerston, qui, comme Lord Castlereagh, porte un titre, mais qui siège dans la Chambre des communes, car son titre n'est qu'irlandais. Et Palmerston et Castlereagh sont tous les deux irlandais, au moins. Castlereagh est véritablement irlandais, bien que bien sûr protestant. Palmerston est d'une famille anglo-irlandaise. Palmerston lutte très sincèrement contre l'esclavage. Il dit que le jour où l'esclavage en Brésil a été aboli était le plus beau jour de sa vie publique. Il soutient les libertés européennes. Il soutient aussi l'importation de l'opium en Chine. Alors, pure hypocrisie donc. Je ne pense pas, une certaine hypocrisie certainement, mais la liberté de commerce dont je vais parler tout à l'heure, même s'il y a, comme Palmerston le sait très bien, même s'il y a des aspects dégoûtants, et les libéraux n'aiment pas du tout les marchands, pas les marchands d'opium surtout, justifie tout. Il faut le commerce libre. Si on commence avec l'opium, c'est dommage, mais l'intérêt de la liberté passe et va transformer la Chine en pays moderne. La crise de 1848 commence une période de confiance en Angleterre. On n'a pas eu de révolution. L'économie a repris. La grande exposition est un grand succès. On déplore le coup d'État en France. Palmerston l'accueille avec plaisir, donc il a dû démissionner. Mais ça ne prouve que la supériorité de l'Angleterre. Après tout, la France et l'Angleterre ont été considérées comme les deux grandes puissances libérales, et voilà que la France a failli. Donc l'Angleterre reste le seul en Europe, ou le seul grand pays libéral. On soutient avec émotion les mouvements libéraux sur le continent, surtout en Italie, en Hongrie. Et Kossuth et Garibaldi deviennent les plus grands héros populaires, ou parmi les plus grands qu'on a jamais vus dans notre histoire, certainement les plus grands héros étrangers avant Nelson Mandela. Quand il vient en Angleterre, des foules de jusqu'à, on dit, 200 000 personnes sont là pour les accueillir. Et le soutien des mouvements libéraux et nationaux en Europe sont d'une importance politique très grande. Mais il y a le Second Empire, un danger qu'on exagère énormément. Mais comme toujours, on essaie d'être amis avec le pays le plus dangereux. Et ça nous amène à la guerre de Crimée, l'intervention en Chine, l'intervention en Mexique, les actions communes à l'époque de la guerre civile américaine, l'intervention en Syrie, etc. La France de Napoléon III est le partenaire idéal pour l'Angleterre parce qu'il a une armée. L'Angleterre n'a pas d'armée véritable et donc il lui faut toujours un partenaire qui peut lui donner des troupes sur la terre. Une année clé est 1860, un grand succès, ce qui est considéré comme un grand succès britannique en Italie. C'est vrai que la France a combattu, mais tout le monde croit que l'Italie qui est sortie est une Italie à l'anglaise. Donc l'Angleterre a réussi sans avoir versé une goutte de sang. Sauf, il y a, comme vous le savez, l'annexation par Napoléon de Savoie et de Nice qui crée une crainte sérieuse. Mais il y a de l'autre côté le traité de commerce de 1860 qui amène ce qu'on a appelé le premier marché commun. Donc il semble que tout va pour les Anglais en Europe. Ce qui m'amène à mon troisième livre, celui de Trentman, Free Trade Nation. Encore, c'est une analyse qui prend très au sérieux les idées qui animent la politique. Il ne nous montre pas une stratégie purement économique abstraite et d'intérêts matériaux, si une telle chose pouvait exister, mais une politique idéologique. Free trade, dit Trentman, is, encore je cite en anglais, the closest modern Britain ever came to a national ideology. Le plus près que l'Angleterre est jamais venue d'avoir une idéologie nationale, ce qui donne à réfléchir. C'est une idéologie utopique et qui ne sert pas, ou pas toujours, les intérêts économiques britanniques. L'Angleterre est, comme on nous a dit tout à l'heure, le seul pays qui applique cette politique pendant une longue période, plus d'un demi-siècle. C'est la politique non seulement des exportateurs de coton, mais donc, sauf qu'il y en a certainement, dont le prophète du free trade, Cobden, mais aussi des pacifistes, des féministes, des humanitaires, des démocrates, des syndicats. Ils voient dans le commerce libre une grande révolution, dit Cobden, la plus grande révolution de l'histoire. Ou, une autre façon de le dire, c'est la diplomatie de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il va priver les États de l'argent qui paie les armées, il va miner la position économique des propriétaires terriens, des aristocraties réactionnaires, il va enlever la motivation des luttes internationales et donc amener un monde libre et pacifique. Nous avons donc cette contradiction, si vous voulez, qu'on a appelée souvent l'impérialisme du commerce libre, the imperialism of free trade. C'est un concept qui est beaucoup critiqué maintenant parce qu'il est bien trop large et trop imprécis. Mais il est utile, peut-être au moins pour exprimer une certaine chose, c'est que l'idée du commerce libre forme, ou au moins est très importante pour toute la politique étrangère de l'Angleterre au XIXe siècle, après le milieu du XIXe siècle. Et par exemple, il détermine la politique économique de l'Inde. Il domine les relations avec l'Amérique du Sud et aussi le désir de garder la Chine indépendante, bien que sous la tutelle britannique. Et il sert aussi à pousser l'Angleterre dans le jeu de l'expansion impériale en Afrique vers la fin du siècle. Comme le montre Trentman, cette idéologie du free trade devient politiquement intouchable. Ceux qui essaient de le changer sont battus, sont humiliés. Et ceci malgré les désavantages de plus en plus évidents, et les désavantages économiques de plus en plus évidents que les années amènent à partir de 1880. Les gouvernements britanniques, par exemple, refusent même de négocier des traités réciproques. The Foreign Office et le Trésor refusent de commencer des négociations qui pourraient obliger les pays comme les États-Unis, la France ou l'Allemagne d'abattre leurs propres tarifs. On fait le commerce libre et c'est tout. Donc les pays protectionnistes peuvent bénéficier du marché britannique libre parce que on continue à considérer que c'est la politique de l'avenir, c'est la politique morale. C'est la politique qui amène le progrès, la paix, etc. Les années 60, donc, j'ai dit, sont des années de succès. L'Italie est libre, le marché commun s'établit. Beaucoup espèrent que l'Angleterre n'aura plus besoin d'intervenir en Europe, sauf peut-être moralement. C'est ce que dit Gladstone. Disraeli dit que l'Angleterre, après tout, n'est plus véritablement un pays européen. C'est une puissance asiatique. L'Europe est secondaire. Donc l'Europe se défait et se refait pendant les années 1860 sans que l'Angleterre participe, sans que l'Angleterre ne peut intervenir, mais de toute façon, elle ne veut pas intervenir. À l'époque de Lord Salisbury, Premier ministre et Foreign Secretary à la fin du siècle, on parle d'un isolement splendide qui permet quand même l'occupation de l'Égypte et la défaite des Boers et la domination de l'Afrique du Sud. Le grand changement de cette politique commence non pas en Europe, mais en Asie, et surtout en Chine, car le conflit entre le Japon, soutenu par l'Angleterre, et la Russie, que l'Angleterre encourage pour empêcher les Russes d'annexer des grandes parties de la Chine, que l'Angleterre veut, comme j'ai dit, garder libre pour le commerce. Donc la lutte contre le Japon, allié de l'Angleterre, et la Russie, alliée de la France, oblige la France et l'Angleterre d'éviter toute complication en signant l'entente cordiale en 1904, et vous savez le reste. La déclaration de guerre en 1914 est pour Grey, le Foreign Secretary, le dernier des grandes familles Whig, une décision de dimension mondiale, bien qu'elle est présentée au public comme la défense de la Belgique. Mondiale parce que si l'Allemagne gagne, elle risque de créer une alliance, une grande alliance continentale contre l'Angleterre. Et donc l'Empire ne sera plus en sécurité. Ma dernière épisode, ou est-ce que je devrais...
Je compte 4-5 minutes.
Bon. Ma dernière épisode, que je vais résumer très vite, c'est ce qui se passe après la guerre de 1918. En fait, je ne sais pas si c'est utile de le mentionner, mais je vais faire une conférence dans le séminaire de M. Barjot sur ce sujet en beaucoup plus de détails. Je pense que c'est le 18 ou le 19 octobre. Donc, si j'avais le temps, je en parlerai maintenant, mais je pense que je n'ai pas le temps, donc je vais simplement résumer. Vous le savez très bien que l'alliance entre la France et l'Angleterre ne continue pas après la guerre de 14. Et c'est la faute, certainement, de l'Angleterre. On peut parler, si j'avais le temps, je parlerai des différences qui se sont créées pendant la guerre. Même la guerre est vue d'une façon très différente dans les deux pays. Et la paix aussi est vue d'une façon très différente. Pourquoi ? Il y a, à la fin de la guerre de 14, tout à fait à la fin, il semble une grande, et Margaret Macmillan en parle dans son livre, une grande bouffée d'optimisme qui suit les déclarations du président Wilson, qui devient pour un certain temps un héros mondial. Donc la guerre, il semble finalement, véritablement, va être la guerre pour terminer les guerres. Et donc il y a parmi les gouvernements, les diplomates et aussi bien que parmi les peuples, un désir d'en finir avec l'ancienne diplomatie, l'époque des guerres. Comment le fait-on ? Évidemment, en créant la Société des Nations, en créant une diplomatie ouverte, et aussi en traitant l'Allemagne, après sa révolution, comme un pays ami. Alors voilà le début de la différence entre la France et l'Angleterre. Je ne dis pas que les Français ne partagent pas cette idée. La gauche française le fait certainement. Mais les hommes tels que Clémenceau, Poincaré, Foch ne le partagent pas. Si vous voulez, ils voient plus clair. Ou de toute façon, ils voient la lutte comme une lutte entre les nations et une lutte entre la France et l'Allemagne. Ils ne le voient pas comme le voient de plus en plus de Britanniques, comme une lutte entre les systèmes politiques. C'était une lutte contre le militarisme, pas contre l'Allemagne ou les Allemands. C'était une lutte contre le Kaiser, c'était une lutte contre l'impérialisme. Mais maintenant, tout ça est fini, et donc il faut traiter les Allemands doucement, si vous voulez, pour les encourager de rentrer dans la famille des nations après-guerre. Cette idée exprimée surtout et dans un livre extrêmement important et néfaste, si vous voulez, de John Maynard Keynes, un économiste de Cambridge qui fait partie de la délégation britannique aux conférences de paix, The Economic Consequences of the Peace, qui prend la position assez extrême en fait des Allemands, que les Allemands ont été traités injustement, et surtout par les Français. Keynes a un portrait très éloquent de Clemenceau qu'il considère comme le diable, si vous voulez, dans ce processus. Et donc, les Anglais et les Français se trouvent... Les Anglais, l'Empire britannique, c'est-à-dire les Dominions, l'India, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud et les États-Unis se trouvent d'un côté, Clemenceau et les Français de l'autre. Lloyd George, le Premier ministre britannique, semble avoir fait plus ou moins exprès pour truquer Clemenceau. Il fait la promesse d'une alliance pour garantir la sécurité de la France. Clemenceau donc accepte de signer la paix, et puis Lloyd George sait que les autres des raisons pour croire que les Américains ne vont pas soutenir cette politique, et donc pour lui c'est une excuse de ne pas signer le traité qu'il a promis à Clemenceau. Donc les Français se trouvent sans garantie ayant fait des concessions au point de vue anglo-saxon dans le traité. Si vous voulez, donc je vais simplement terminer en disant, après la guerre de Napoléon, nous avons l'Angleterre qui s'engage profondément dans la politique de sécurité européenne. Après la guerre de 18, l'Angleterre veut se dégager de l'Europe. Et si vous voulez, deux symboles de cette position-là, c'est le tunnel sous la Manche, qui a été aussi promis à Clemenceau, parce que c'est le moyen de renforcer l'armée française en temps de guerre. Et que les Britanniques, et surtout l'armée britannique, refuse d'accepter. Donc le tunnel n'est pas construit dans les années 20. Dit l'armée, si on veut faire la guerre en Europe, il nous faut un tunnel, mais parce que nous ne voulons pas faire la guerre en Europe, il ne faut pas de tunnel. Et la deuxième chose, c'est la création de l'armée de l'air, the RAF, the Royal Air Force. C'est une arme qui prend la plupart des crédits disponibles, parce que c'est une arme qui va défendre l'île, qui va permettre à l'Angleterre de s'isoler. L'armée est négligée, et c'est le neglect de l'armée qui amène, ou qui, dans un sens, qui amène ou qui contribue au désastre de 1940. Donc, c'est ça ma conclusion, si vous voulez, au moins ma dernière phrase. Comment expliquer cet énorme changement de position d'un après-guerre à l'autre? C'est un changement de culture, c'est un changement de personnel, c'est un changement de situation, mais c'est aussi un changement idéologique où la réelle politique, si on veut, de Castlereagh donne lieu à la politique optimiste, idéaliste et internationaliste de Keynes et de ses disciples.